gas. Ma piquille.
De la patate.
Pour les tomates espagnoles, elles sont pas mauvaises, hein.
Mmh, mais il est bon, mon clafoutis.
Si on prenait le vignoble à zéro, on pourrait faire un vin magnifique.
CO2, mon amour.
Mais il y a tout ici, y a absolument tout. Il y a des bois, il y a des vignes, il y a des fruits, il y a des légumes.
Il y a même une source.
Diurétique.
On pourrait faire un très grand potager là-bas.
Ouais.
Planter des pommiers, des poiriers, un peu de blé.
Oh, je n'ai jamais senti aussi jeune depuis 30 ans.
Denis Chessot.
Vive la Révolution !
Vive la Révolution !
La Révolution !
Vive la Révolution !
Voilà, vive la Révolution. Bonjour à tous, bienvenue dans votre magazine de nature et d'environnement, CO2 mon amour. L'émission qui rapproche les hommes en nous rapprochant de la nature, en tout cas qui essaie, avec aujourd'hui Anne-Laure Cochet et Hélène Langlois à la technique, et assistée de Camille Blanès, c'est Xavier Pestugia qui réalise l'émission. Vous ne verrez pas Charles Barjou aussi qui nous accompagne. Alors, vous entendez, oui, c'est de l'eau, c'est plus que de l'eau, c'est de l'océan. Il y a trois sortes d'hommes, les vivants, les morts et ceux qui partent en mer, nous disait Aristote. Et voyez-vous, moi j'aime les humains qui dodelinent, cabotent, pêchent sur mon dos. Je discute avec d'autres planètes, car quand même vous avez de la chance d'avoir de l'eau sur la Terre, car je fis jaillir la vie. Mais alors quand même, pour me remercier, 3 milliards 600 millions d'années plus tard, les excréments de votre civilisation terminent toujours dans mes estuaires. Cadeau. Depuis 2 siècles, vous ne savez rien faire sans tout saloper. Ah oui, vous êtes comme ça. Moi, je suis bonne fille en stockant vos métaux lourds, vos médicaments, les bouts rouges, votre radioactivité balancée ni vue ni connue dans mes fosses qui n'ont rien de sceptique. Ah, je vous cache pas que je m'engloutirais bien quelques jet skis, des hors-bord, des paquebots de croisière de 10 étages. Bon, enfin, il paraît que ça se fait pas. Vous avez réussi en peu de temps à faire fondre une partie de mes glaces. Ça, c'est très dommage, parce que le blanc renvoyait la chaleur que mon bleu est obligé, aujourd'hui, d'avaler. Bref, je me réchauffe, je me dilate, à rate incluse, et vais continuer à grignoter vos terres d'un long baiser salé. Mais qui suis-je? Dans quel étage mère? Oui, pour les uns, je suis en fait un bronze cul, un support à paillotes, une carte postale. Pour les autres, un réservoir sans fin à poissons avec bateau-usine, ou bien, en acceptant les pauvres bougres de l'armée du chalut. Je suis une réserve de pétrole, de minerais. Bref, et qui fabrique l'oxygène? Hein, qui fabrique l'oxygène? Eh bien, nous nous répartissons le boulot entre mes algues et les forêts. Et votre génie a aussi fabriqué des polders, mais avec un 7e continent en plastique. Oui, du pétrole dont vous m'avez allégé, d'accord? Mais d'une façon délicate, vous me le rendez sous une autre forme. Autrement dit, j'en ai ras la gueule de ces chasseurs de Pokémon pas finis. Et le CO2 en trop, après avoir bien déréglé la machine, ben vous le gardez. Et oui, parce que le plus bel océan du monde ne peut donner que ce qu'il a. En fait, je vous aime. Je vous aime quand vous imitez les oiseaux sur l'eau, quand vos bateaux tout carbonés de vent tutoient mes rugissants, quand autour du monde, sans escale, vous visitez mes océans. Là, je suis territoire de peur, de rêve. Nous convoquons Neptune, Nemo, le Léviathan, Cousteau et ses enfants. Tout ce dont a besoin l'homme pour vivre et se dépasser. Alors maintenant, il faut me reconquérir, m'apprendre. Vous me connaissez à peine. C'est vrai, moi, la mer, les océans. Faisons alliance, ou bien Blue Society, si vous préférez. Vous avez tous un avis sur la composition de l'équipe de France de foot, mais sur l'océan, hein? Alors, homme libre, toujours tu chériras la mer, certes, mais l'inverse est-il vrai? Redonnez-moi envie de vous. Je tiens à vous signaler que le numéro qui vient de sortir de Terre Sauvage est entièrement consacré donc aux océans, donc le monde du silence, ce qui nous apprennent sur la santé de la planète, et vous retrouverez ce merveilleux texte donc aussi à l'intérieur. Alors, on va rester justement sur l'océan. Alors, nous, c'est notre petite actualité, c'est vrai qu'elle n'a pas fait grand-chose dans la presse. On va vous parler de l'océan Austral, qui est donc un piège à CO2 qui est mal connu, et on va donc rejoindre le début d'une campagne océanographique. Faut dire que le courant ce qu'on appelle circumpolaire, qui tourne autour de l'Antarctique depuis 23 millions d'années, c'est la courroie de transmission de l'ensemble des courants mondiaux. Et Stéphane Blin est donc chercheur au laboratoire d'océanographie en pleine mer, d'océanographie microbienne, pour être précis, de Bagnouls-sur-Mer, donc à bord du Marion Dufresne. Alors on le sait, ce Marion Dufresne, il ravitaille les terres australes antarctiques françaises. Et puis vous avez donc un labo océanographique avec une instrumentation très spécifique. Et donc on va faire d'abord de la géolocalisation avec vous. Stéphane Blin, où êtes-vous?
Eh bien là, en fait, on était ce midi à notre point le plus sud, 58 sud,
Donc pas très loin de la glace, hein, une centaine de kilomètres de la glace, on a fait une station de prélèvement. Et là, comme ils annoncent du très mauvais temps qui est d'ailleurs déjà présent, on est en train de remonter assez vite vers le nord pour essayer d'y échapper.
Et le travail que vous allez effectuer, c'est en fait d'en savoir plus sur l'océan Austral. Autrement dit, donc ce très grand océan qui est aussi donc une liaison avec les autres océans et qui ceinture l'Antarctique. Et qu'est-ce que l'on cherche à savoir ?
Alors, on cherche à savoir comment cet océan absorbe en fait le CO2 qui se trouve dans l'atmosphère et par quel mécanisme. Et donc, pour ça, on étudie à la fois des aspects physiques de sa circulation qui entraîne notamment le CO2 dans les profondeurs et donc le stock, et des aspects biologiques, puisque l'activité biologique aussi constitue une pompe de carbone dans cet océan et son fonctionnement est assez mal connu.
Alors nous avons le phytoplancton qui va capter du CO2, mais aussi évidemment d'autres éléments qui sont beaucoup plus en profondeur. Et c'est tout cela que l'on essaye de modéliser, de chercher ?
Nous, à bord, ce qu'on essaye, c'est tout d'abord de faire des prélèvements pour faire des mesures. Donc des mesures aussi bien sur l'activité du phytoplancton et sa capture du CO2, que des mesures sur effectivement les éléments qui permettent au phytoplancton de pousser dans l'océan.
On va rappeler une chose extrêmement importante, c'est que le CO2 est piégé par des océans, on va dire, qui sont froids. C'est-à-dire que les océans qui sont plus chauds vont capter sans doute moins de CO2. Donc cet océan Austral est donc assez vital. Et globalement, les océans vont capter à peu près 25% de nos émissions de gaz à effet de serre.
Oui, c'est ça. Les océans captent à peu près 25% des émissions de CO2, et l'océan Austral en capture la moitié. C'est lié en fait au fait, c'est vrai qu'il est très froid et donc il dissout du gaz dans sa couche de surface, mais c'est surtout lié au fait qu'il y a des endroits de cet océan où la circulation océanique fait que l'eau de surface est emmenée au fond, et donc elle emmène avec elle le CO2, et donc le stock l'isole de l'atmosphère, et c'est ce qui fait l'effet de pompe, ce qu'on appelle la pompe physique de l'océan.
Rappelez-nous quand même l'importance de ce piège à CO2 qui n'est pas assez connu.
S'il n'y avait pas l'océan, il y aurait beaucoup plus de CO2 dans l'atmosphère. Donc il joue un rôle en quelque sorte de régulateur actuellement. La question qui nous est posée, c'est est-ce qu'il va continuer à le jouer dans le futur ? C'est-à-dire que plus on met de CO2 dans l'atmosphère, est-ce que l'océan va continuer à en absorber d'autant plus ? Ou est-ce qu'à certains moments, effectivement, son comportement va changer ? Et il y a deux mécanismes qui permettent à l'océan de capturer le CO2, l'aspect pompe physique, et un autre qui est la pompe biologique dont on parlait tout à l'heure avec le phytoplancton, et c'est celui-là qui nous intéresse beaucoup dans l'océan Austral, parce que actuellement cette pompe biologique est relativement inefficace pour diverses raisons, et la question qui se pose, c'est est-ce qu'elle va rester inefficace dans le futur, ou est-ce qu'elle va éventuellement se mettre en marche du fait que les propriétés de l'océan vont être modifiées, notamment par le changement climatique.
Stéphane Blin, donc vous êtes parti au sud de la Réunion avec le Marion Dufresne pour aller au sud donc des Kerguelen. Alors évidemment, ça commence par de la douceur incroyable, puis après bah vous tapez donc ces fameux grands rugissants, et là presque d'un coup bah on passe du chaud au froid.
Hein. Oui, exactement, quand on passe une frontière aux alentours de 40 degrés sud, on pénètre dans l'océan Austral avec les 40e rugissants, les 50e hurlants. Et là, cet après-midi, par exemple, on avait de l'eau qui était rendue à moins 20 degrés, l'air était à 0 degrés. On a actuellement 40 nœuds de vent et 6 à 7 mètres de creux. Donc, on est vraiment au cœur de l'océan Austral.
Merci à vous, Stéphane Blin. Et donc, bonne navigation. Je n'aimerais pas forcément être à votre place, mais c'est comme ça. Bonjour, Frédéric Danhé.
Bonjour, Denis Gessou.
Alors, cher Frédéric Danhé, vous êtes aussi pas loin de l'eau, parce que vous êtes à la confluence de la Saône et du Rhône, autrement dit. Vous êtes à Lyon. Voilà. Tout à fait tranquillement. Juste avec vous, parce que c'est vrai que vous avez donc écrit l'Atlas du réchauffement climatique il y a quelques années. Et puis, quand même, ce titre, CO2, mon amour. Eh ben oui, on va parler un petit peu de CO2. L'actualité, quand même, c'était la semaine dernière, donc il y a une semaine à Kigali, donc au Rwanda, un amendement au protocole de Montréal qui prévoyait la disparition des hydrofluorocarbures, les HFC, que l'on va retrouver dans les climatiseurs, les réfrigérateurs, dans les aérosols, les mousses isolantes. Alors, il y avait déjà eu un protocole de Montréal qui avait donc réuni des universitaires, des scientifiques et le monde politique, qui avait effectivement pas mal marché. Et là, donc, on en a rajouté, dans le bon sens, une couche pour éviter que la couche d'ozone ne soit totalement détruite. Bon, qu'est-ce que l'on peut dire de cela ? Parce qu'on a vu évidemment beaucoup de cocoricos, et ça c'est bien, parce que quoi qu'il arrive, c'est quand même un gaz extrêmement important, et qui est donc réchauffant 12 000 fois plus que le CO2. Mais il reste évidemment très peu de temps, lui, dans l'atmosphère.
Oui, c'est ça. Alors effectivement, c'est très très bien parce qu'on est en train, grâce à une coopération internationale, de refermer le trou dans la couche d'ozone, mais grâce à un gaz qui lui-même en rajoute sur l'effet de serre. Cela dit, quand on regarde, eu égard à son volume présent dans l'atmosphère, c'est pas grand-chose par rapport au CO2 qui reste le gaz le plus effet de serreogène, si j'ose dire. Et puis, il reste d'autres gaz dont on ne se préoccupe pas, qui sont le SF6 et le NF3, qui sont largement utilisés dans l'industrie microélectronique, qui sont encore pires. Mais voilà, c'est quand même très très bien parce que l'industrie est amenée à utiliser de plus en plus d'HFC, donc d'avoir entamé leur interdiction, ça nous évitera d'avoir un autre problème à régler d'ici un siècle, parce qu'on peut supposer qu'avec trop d'HFC dans l'atmosphère, on aurait gagné 0,5 degrés d'ici la fin du siècle. Donc c'est très bien, mais c'est quand même l'arbre qui cache la forêt, comme vous le savez, Denis.
Alors les volumes quand même, remettez-nous à flot tranquillement, un petit cours de SVT on va dire autour donc, de ces gaz à effet de serre, qu'est-ce que ça représente, monde, Europe et France? Allez, on y va.
Alors c'est avant tout du CO2, ça on l'a dit, avant tout c'est l'usage de l'énergie, que ce soit sous forme d'essence, de chauffage, de gaz pour la cuisson, d'électricité, hein, c'est 88% en gros du CO2 qui se trouve dans l'atmosphère est lié à cet usage de l'énergie. Et le reste, contrairement à ce qu'on pense, c'est le changement d'usage des sols, c'est la déforestation, c'est le labourage d'une prairie par exemple, c'est 12% des gaz que nous émettons. Et puis le facteur puits de carbone dont on vient de parler, c'est quand même 56% des gaz que l'on émet chaque année qui reviennent dans la biomasse, qui sont captés par la biomasse. Quand on regarde en détail, globalement le secteur des transports, c'est à peu près la même chose dans le monde, en Europe et en France, c'est 14%. C'est un peu plus en France quand même, c'est même deux fois plus, je suis en train de refaire mes chiffres, c'est 27%. Juste un petit détail, les torchères, vous savez, ces gaz que l'on brûle à la sortie des raffineries, c'est 6% des émissions de CO2 dans le monde, c'est considérable.
C'est énorme,
6%,
ça.
6%, c'est considérable. L'agriculture, c'est 18% en France, c'est 10% en Europe, et l'industrie de l'énergie, c'est là où on voit le bénéfice, entre guillemets, du nucléaire et de l'énergie hydraulique, cette production d'énergie, c'est 33% des émissions de gaz à effet de serre en Europe, ça n'est que, entre guillemets, 12% en France. Voilà où on en est. Et quand on regarde les sources, c'est le charbon hein, qui devient de plus en plus moderne, on ne cesse de le dire dans cette émission, Denis, entre 1970 et 1900 et aujourd'hui, et 2016, c'est plus un tiers d'utilisation du charbon, moins un tiers d'utilisation du pétrole, et c'est plus un quart, j'ai refait les calculs, sur l'utilisation du gaz, voilà pour le tableau mondial.
Eh ben, écoutez, je vais vous laisser donc à Lyon tout à fait tranquillement. Voilà, vous écouterez l'émission avec votre.
Et intérêt.
Ben oui, bien sûr, avec vos petits écouteurs. Et puis on vous retrouve très vite dans cette émission. Puis moi, je vais vous présenter donc Valérie Cabanès, qui est juriste en droit international, spécialisée dans les droits de l'homme, porte-parole du mouvement End Ecocide, et donc qui vient de sortir Un nouveau droit pour la terre pour en finir avec l'écocide aux éditions donc du Seuil. Valérie Cabanès, définition de l'écocide, s'il vous plaît.
Alors, je vais commencer par son étymologie parce qu'elle est, elle est parlante. Éco vient du grec oikos, qui veut dire la maison, et cide vient du latin oxidere, qui veut dire tuer, détruire. Donc, il s'agit du crime de destruction de notre maison commune, la terre. Et puis, notre définition plus technique, c'est effectivement le fait d'endommager gravement ou de détruire des communs planétaires ou des cycles écologiques qui sont vitaux pour maintenir la vie sur Terre et donc finalement pour maintenir nos conditions d'existence et surtout celles de nos enfants et de nos petits-enfants.
Et donc on va voir comment le droit international peut agir parce qu'aujourd'hui évidemment il n'est pas très très bien outillé pour cela mais c'est en train de bouger. Donc Valérie Cabanès avec nous au cours de cette émission. Puis nous irons faire un petit tour du côté avec Pascal Dervieux du côté de l'Aveyron pour rencontrer des agriculteurs heureux. Mais oui, il y en a.
Quel jeu on joue, tendre l'autre joue à la folie qui éclaire ma nuit. Mon amour, une araignée au plafond, une étoile sur le front. Et nous avons traversé les intempéries pour se dire aujourd'hui basta les vautours. Personne ne sait ce qu'aura été notre amour. Quel jeu on joue, tendre l'autre joue à la folie qui éclaire ma nuit. Mon amour, une araignée au plafond, une étoile sur le front. Et nous avons traversé les intempéries pour se dire aujourd'hui basta les vautours. personne ne sait ce qu'aura été notre amour. Aujourd'hui basta les vautours. Personne ne sait ce qu'aura été notre amour.
C'est beau, tu te rends compte?
C'est pas une œuvre d'art.
Si! Si, un site est une œuvre d'art.
CO2 Mon Amour avec Denis Chessou.
Les architectes qui ont fait les beaux-arts, ils oseraient pas approcher leurs petits doigts d'un tableau de Ruisdael de peur d'écorcher la peinture, mais ils ont pas peur de venir saccager à coups de bulldozer un paysage qui est digne, et je pèse mes mots, des plus grands chefs-d'œuvre des maîtres hollandais.
Sur France Inter.
Eh ben oui, parce que les paysages, c'est aussi du bien commun, comme l'air, comme l'eau, et tout ceci passe bienveilleusement la trappe. On va pouvoir en parler avec vous, Valérie Cabanès, avec cet ouvrage, donc Un nouveau droit pour la terre, pour en finir avec l'écocide. Donc l'écocide, c'est détruire notre maison commune, et qui en fait, Dominique Bourg le dit bien en introduction, en tant que philosophe et aussi écologiste, il dit que c'est pas le premier crime ultime qui s'ajoute aux autres, mais c'est le crime premier qui ruinerait en fait les conditions d'habitabilité de la terre. Jusqu'à présent, on s'est vraiment gentiment assis dessus, enfin depuis relativement peu de temps, depuis qu'on a ce système consommatoire complètement dément. Aujourd'hui, on commence fort heureusement à en prendre conscience. D'autant que maintenant, les notions de limites planétaires sont déjà franchies et sont déjà des choses qui sont qui commencent à monter quand même dans l'opinion. On avait commencé en 72 avec le Club de Rome, mais quand même, c'est là. Donc quelques rappels, Valérie Cabanès, sur ces limites.
Oui, ces limites, elles ont été définies par le Stockholm Resilience Center en 2009, révisées en 2015. Elles ont été reconnues par les Nations Unies comme des données scientifiques valables. Et elles concernent effectivement les atteintes aux communs planétaires. Je préfère dire les communs que les biens communs.
Oui.
Parce que quand on parle de biens communs, ça veut dire qu'une fois de plus, on considère que...
C'est à nous.
Que c'est à nous. Oui. Et non, nous leur appartenons. Alors la première limite qui est très très inquiétante, c'est la limite liée à l'érosion de la biodiversité. La Terre peut supporter à peu près la perte d'une à 10 espèces par an. Aujourd'hui, ce taux est à 100 fois, voire 1000 fois supérieur à ce qu'il a pu être. On a perdu 77%, en tout cas on a impacté 77% des espèces de poissons, 25% des prises de la surpêche sont rejetées en mer, ce qui veut dire qu'en plus on gaspille effectivement les ressources marines. On a perdu 90% des baleines bleues, 26% des oiseaux en Europe, 40% des abeilles, voire 50% selon les pays comme les États-Unis par exemple. Et les abeilles sont là pour... pour nous offrir tous les fruits, toutes les plantes et pas qu'à nous.
Alors nos abeilles mellifères, Apis mellifera, mais aussi donc les abeilles sauvages. Je le précise toujours parce qu'elles sont plus nombreuses encore que les.
Oui,
que
les abeilles sauvages, mais aussi les papillons,
bien sûr. Enfin, tous les
guêpes,
les pollinisateurs. Les chauves-souris, c'est parti des pollinisateurs.
Absolument. Et il faut savoir quand même qu'il faut 100 millions d'années pour revenir à la normale. On a déjà eu 5 extinctions d'espèces quasi totales sur Terre, jusqu'à 90% d'espèces. Nous sommes rentrés malheureusement aujourd'hui dans une 6e extinction. Et cette extinction, c'est nous qui l'avons provoquée.
Alors donc, petit rappel qui était absolument nécessaire, on en parle depuis longtemps dans cette émission, mais c'est toujours bien de le remettre un peu en perspective. Ne partez pas tout de suite, on va essayer de trouver quand même des solutions, ne vous en faites pas. Alors comment fait-on lorsque l'on est à la fois, là maintenant je parle de nos amis humains, qui sont dans une logique électorale et dans une logique de croissance nationale, autrement dit être réélu et faire monter le PIB. Là, on parle de long terme, et il y a quand même une espèce de réalité des réalités géophysiques donc de notre planète, de notre Terre. Et quel peut être le rôle du droit dans ce genre de cas ?
Alors pour moi, le droit doit justement aujourd'hui s'adosser sur la science, s'adosser sur une loi que je dirais une loi biologique, un petit peu comme Georges Sell lui-même le prônait, c'est-à-dire de dire finalement, est-ce qu'il n'est pas nécessaire aujourd'hui de discipliner nos activités au regard, bien évidemment, de ces impacts, mais au regard aussi de ce qu'elles vont provoquer pour les générations futures et ces fameuses limites planétaires, qu'elles soient celles liées à l'érosion de la biodiversité, celles liées à la concentration de CO2 dans l'atmosphère, des rejets écotoxiques, de l'acidification de l'océan, on en a parlé tout à l'heure, mais il faut bien comprendre que le fait que l'océan soit une pompe à carbone a un impact directement sur la faune marine. L'acidité de l'océan est en train de dissoudre l'aragonite, c'est-à-dire ce petit, toutes les coquilles des phytoplanctons, des petits mollusques qui sont à la base de la chaîne alimentaire. Et donc aujourd'hui, nous avons aussi dépassé malheureusement un taux d'acidification qui devient irréversible.
Mais alors, est-ce que l'océan peut être défendu en justice quand il meurt de trop d'acidité ? À qui vont s'adresser les arboriculteurs quand leurs fruitiers ne seront plus indemnisés par des colonies d'abeilles qui sont décimées ? Comment espérer, on va dire, prévenir un préjudice global ?
Alors, tant que le droit tel qu'il a été construit depuis 500 ans, considère que sa personnalité juridique pivot, celle qu'il va défendre, c'est l'humain et l'humain seulement, tant qu'il sera anthropocentré, nous aurons énormément de mal, effectivement, à trouver des solutions pour protéger la vie sur Terre quand elle n'a pas un impact, je dirais, immédiat et direct sur des victimes humaines. Donc ce que je propose aujourd'hui, et je suis dans une lignée de juristes depuis très longtemps, depuis au moins plus de 50 ans qui milite pour cette reconnaissance du crime d'écocide, c'est de dire, finalement, ce crime premier, qui est le crime de destruction de la vie sur Terre, devrait être reconnu dans le droit international, et il faudrait aujourd'hui donc que finalement nous donnions des droits aux écosystèmes de la Terre, que nous donnions des droits à la nature, et certains États, certains comtés, l'Équateur en 98 dans sa constitution, la Bolivie dans sa loi pour la protection des droits de la terre-mère, certains comtés américains aux États-Unis, précurseurs, qui ont donné des droits aux écosystèmes, qui ont défendu en justice, esté en justice au nom de certaines rivières et de certaines sources, en disant « moi, la source cristal, vous êtes en train de détourner mon lit et voici les conséquences que cela va avoir sur l'environnement global et sur les populations. » Et le juge a même retenu cette histoire en disant « Je nomme comme propriétaire de cette rivière et de cette source son lit. »
Ça, non, ça veut dire que les juges qui sont donc courageux dans ce genre de cas sont plus en avance que les écrits.
Oui, et c'est les juges véritablement sous la pression des citoyens, parce que justement on va les interpeller, qui font évoluer le droit, qui créent de la jurisprudence avant que le droit lui-même soit écrit dans nos législations et à l'échelle internationale. On en a beaucoup d'exemples aujourd'hui, et moi je les félicite parce qu'ils ont effectivement ce courage de créer de nouveaux outils juridiques, de nouvelles valeurs et philosophiquement de nous faire avancer.
Alors ce que je vous propose, c'est, on va parler aussi dans l'actualité de ce qui s'est passé la semaine dernière, autrement dit le tribunal face à Monsanto, accusé Monsanto, levez-vous, mais auparavant, moi je vais vous emmener parce que ça va nous faire aussi beaucoup de bien, puis ça va quand même dans le même sens. Je vais vous emmener tranquillement dans l'Aveyron. Parce qu'en fait, le week-end prochain se tiendra au Parc Floral à Paris, le 5e salon Paris Fermier. Alors, Paris comme un pari. Hein. Donc, ça fait partie, en fait, des nombreuses initiatives qui se multiplient ces dernières années pour promouvoir donc ces agriculteurs qui ont choisi de transformer, de commercialiser eux-mêmes leur production. Et oui, marché producteur. Alors, vous avez des associations comme La Ruche qui dit oui, j'oublie pas les AMAP. Enfin, il y en a pas mal aujourd'hui. Cet été, le conflit entre producteurs laitiers de l'ouest de la France et le groupe Lactalis avec Emmanuel Beignet, donc 8e fortune de France, a été quand même extrêmement chaud, ou bien celui qui a opposé les producteurs de viande à Carrefour, qui ont mis en évidence la dépendance totale dans laquelle se trouvent les agriculteurs dans le système classique, c'est-à-dire production unique, acheteur unique et marché mondial en plus. Donc c'est une espèce de garrot. Et alors c'est pour échapper en fait à ces dépendances que de plus en plus d'agriculteurs vendent eux-mêmes leurs produits. Et je tiens à signaler que Interception y reviendra demain matin à 9h15 avec des tas d'exemples très très positifs. Et aujourd'hui avec Pascal Derbieux, on va s'arrêter donc dans ce département qui est tout à fait dynamique sur ce terrain, donc l'Aveyron, et on va sur la ferme de la Roselle à la Bastide l'Évêque. Alors c'est très beau, la Bastide l'Évêque, c'est ouvert bien sûr, c'est à côté de Villefranche-du-Rouergue. C'est là que vit la famille Mazard. Alors vous avez trois générations, hein, du grand-père 81 ans, au gendre qui n'en a pas 30. Bon, et donc ils se sont lancés dans l'élevage de chèvres, en passant par les parents, Brigitte et Didier, on va les entendre. Producteurs de lait, on ne peut plus classique, jusque dans les années 80. Et puis, l'instauration des quotas les a obligés à prendre un virage. Ils se sont lancés dans la fabrication de fromage avec le lait de leurs vaches et aussi des chèvres. L'effondrement des cours du lait leur a donné raison, donc on y va et on voit comment ils s'en sortent. Avec Pascal Derbieux.
Monsieur Chambert, le lait qui est trait ici, il part où ensuite?
En fromagerie.
Ici à la ferme?
Oui. Au départ, on donnait le lait à la laiterie d'autres bidons. C'était très peu.
C'était très peu, mais vous étiez payé à son prix.
Ah oui. Ah, ouais.
Quand vous étiez jeune, le fromage, vous le faisiez aussi à la ferme?
Non. On a commencé à faire le fromage quand les quotas ont été situés. On produisait trop de lait, alors petit à petit, ils se sont lancés à faire du fromage. Transformer, on valorise le lait.
Didier Mazard, qu'est-ce que vous allez faire?
Là, je suis en train de faire téter les petits veaux, qui ont 15 jours, 3 semaines.
Le lait que vous produisez, là, que vous avez dans la main là, en ce moment, vous pourriez le donner entièrement à une coopérative. Qu'est-ce qui vous empêche de le faire aujourd'hui?
Ce qui m'empêche de le faire, c'est que le prix du litre lait est de moins en moins payé, quoi. C'est pour ça qu'on s'est mis à fabriquer du fromage, quoi, pour avoir une plus-value, quoi. Quand on voit le prix du litre lait à 30 centimes, le litre, il y a des paysans qui n'arrivent plus à vivre, quoi, de ce produit-là, quoi.
Alors si la transformation c'est la solution, pourquoi tout le monde n'adoptait-il pas cette solution?
Nous on a commencé, je pense quand même à un moment, on nous a aidés pour faire ce travail-là, pour transformer. C'est-à-dire on avait la DSV, c'était plutôt des conseilleurs, quoi. Ils nous aidaient à mettre une fromagerie en place. Maintenant ça devient de plus en plus contraignant. Ils nous demandent beaucoup de normes, ils sont là plus comme des flics si on veut. Chaque fois qu'ils viennent, allez, il faut faire quelque chose, il faut transformer notre salle, vous n'avez pas assez de... Voilà.
Ça, c'est un petit Montbéliard?
C'est un petit Montbéliard.
Il a quel âge?
Ah là, 3 jours, 4 jours. C'est une petite génisse que je vais garder pour le renouvellement, quoi.
Brigitte Mazard, là on est dans votre voiture, sur les routes de l'Aveyron. Pour quelqu'un qui, comme vous, veut une activité la plus diversifiée possible dans son domaine agricole, passer son temps dans la voiture, ça fait partie du boulot?
J'ai fait beaucoup de choses dans la voiture, mine de rien. Ça fait partie de... De toute façon, à la campagne, quand on veut vendre nos produits, on est obligé de se déplacer. Les gens, ils viennent très peu à la ferme, hein. C'est à nous d'aller vers eux aussi, quoi. On a les marchés, on a des salons, on a la prospection. Là, on va travailler. Je vais livrer pour une petite association qui s'appelle La Ruche qui dit oui. Donc, il met en relation directement le producteur avec le consommateur une fois par semaine. Mais là, c'est pas un effort. Au contraire, c'est un plaisir d'aller vendre ses produits. C'est surtout ça qui est important. On y prend plaisir. Il faut oser une fois et après, on y prend beaucoup de plaisir à ça.
Ah bah oui, la vie c'est ça, hein. c'est oser de manière permanente, et quand on vous dit bah moi je sais pas quoi faire, bah vous votez en fait avec votre assiette et aussi avec votre alimentation. On continue, donc on est toujours avec cette famille Mazard, donc du côté de Villefranche-sur-Ouergue à la Bastide l'Évêque, et là on va rentrer dans un magasin.
Est-ce que je peux vous demander vous-même pourquoi vous avez choisi de venir dans ce type de magasin?
Parce que les gens, je les connais déjà, les producteurs, parce que c'est rien que des bons produits, il n'y a jamais eu de problème, c'est délicieux. La plupart des produits sont bio et en plus, la cerise sur le gâteau, c'est que c'est moins cher qu'ailleurs. Ils savent nous en parler de leurs produits, ça c'est génial aussi. On peut leur demander des conseils éventuellement, parce qu'il y a des variétés anciennes, par exemple les petites aubergines qui ressemblent un peu à des tomates. Anne nous a expliqué toutes les façons de les cuisiner, enfin, puis elle adore ses produits. Rien qu'à l'écouter, ça donne envie de les acheter, de les cuisiner, quoi.
Je m'appelle Anne Dufresne, je suis exploitante agricole à Saujac, qui est dans l'Aveyron, au bord du Lot. Je produis des légumes, du maïs, du tournesol, des céréales en fonction de mes rotations. Ici, c'est un magasin où on est 22 associés, où c'est que des producteurs qui transforment. Ça fait 4 ans qu'on est monté et on est super contents. On doit déménager parce qu'on n'a pas assez de place. On va installer un rayon boucherie, salle de découpe, traiteur. Depuis qu'on est ouvert, on a 14 enfants qui sont nés. Donc ça veut dire que les paysans se sentent rassurés, que le système fonctionne, ça sécurise les fermes. Il y a eu des embauches, il y a eu des GAEC. Plus on travaillera avec le local, plus on fera travailler son voisin, plus tout le monde pourra travailler et vivre là où on vit.
Votre démarche, elle part de quel constat ? Qu'on est au bout d'un système, dans le système de production agricole classique ?
Pour les paysans, forcément, le système classique est obsolète. Personne s'en sort, c'est pas possible. Les grandes distributions sont des ogres, c'est tout, ils avalent. Donc non plus le paysan sera autonome au niveau de ses semences, de ses transformations, de son point de vente. Mieux il vivra et en plus de ça, il a un contact avec les gens qui sont dans la démarche justement d'acheter local. Pourquoi aller chercher une patate douce d'Israël alors que nous on en fait au bord du Lot ?
Alors comme nous avons dans cette émission quand même l'écologie pragmatique, il est évident que la transformation et la commercialisation directe ne suffiront certainement pas à tirer toute l'agriculture française du marasme dans lequel elle patauge. Mais n'empêche que cette formule a quand même un avantage, on y rencontre des paysans qui en vivent, ça se fait quand même assez rare, et certains même en paraissent très heureux.
C'est taiseux les paysans, on nous dit maintenant, il va falloir qu'on fasse de la vente directe. Oh putain, alors les mecs, ils commencent à se gratter la tête en se disant, bon, il a faim. Alors déjà, il faut parler aux gens. Donc déjà, ça fait flipper. Donc déjà, c'est la première chose. Il y a des gens sur les marchés qui se battent pour que ce soit des producteurs qui vendent, même s'il y a des touristes qui passent, ce soit des vrais producteurs et pas des revendeurs de camelotes, quoi. Des producteurs qui, finalement, font un premier élan vers les gens. Et après, maintenant, il y a un nouveau truc magnifique, c'est que maintenant, les mecs, ils veulent nous vendre nos produits à notre place en disant, vous savez pas faire. On a des agents de marketing, des mecs du commercial, etc., qui finalement vont donner une belle image et tout, bien poli, bien propre des fermes, etc., mais qui est en dehors de toute réalité. Mais on en chie tous les jours. On est toujours en permanence en contact avec la mort, la vie, la maladie, les naissances, au rythme des saisons aussi, mais c'est un truc concret, quoi. On le vit, on l'a dans les tripes. Et les syndicats, l'Europe sont en train de dégoûter les gens de s'installer en agriculture. On nous impose de plus en plus de choses, de travailler vers l'industrie, d'aller vers quelque chose de plus en plus mécanisé, plus ou moins pour nous soulager le travail, mais on n'est plus au contact avec nos bêtes. On se déchire entre nous depuis le remembrement qui a déchiré des villages entiers, des paysans, etc. Moi, je veux des voisins, je veux pas des fermes-usines, quoi.
Brigitte Mazard, quand on parle de l'agriculture aujourd'hui, en particulier en France, on a l'impression qu'il n'y a pas un seul agriculteur heureux. Or, j'ai l'impression d'avoir une agricultrice à peu près heureuse en face de moi.
Alors, moi, j'aime mon métier. On n'est pas fainéant. On est vraiment sur tous les fronts. Et on y trouve notre compte. Et je crois que cet enrichissement personnel fait que ça rayonne, quoi. On aime ce qu'on fait. On est content des résultats. Il faudrait que les agriculteurs se penchent un peu plus vers ce genre de production et se rendre compte à quel point c'est humainement c'est super, économiquement c'est beaucoup mieux qu'une production traditionnelle et en même temps c'est l'attractivité de notre territoire, c'est du savoir-faire que l'on transmet et quand on aime ce qu'on fait, on peut le faire, je vous garantis.
Voilà, de très jolies paroles donc de ces producteurs et donc avec ces circuits courts dans l'Aveyron. Je veux des voisins et pas des fermes-usines, il l'a bien dit le monsieur. Donc la suite avec Pascal Derlieu et son équipe, donc demain, Interception 9h15 sur France Inter. Je vous invite vraiment à écouter donc la suite de ce reportage. Toujours avec nous, Valérie Cabanès, avec Un nouveau droit donc pour la terre, édité donc au Seuil. Alors peut-être aussi quelques réactions, parce que là on est dans du positif. Eux, ils ont peut-être pas attendu un droit international, mais enfin ils y vont quoi. Donc
ouais, mais moi je les remercie. Je vis en Dordogne et on a eu une augmentation en 7 ans de 67% des terres cultivées en bio. À 2 km de chez moi aujourd'hui, il y a des boutiques de producteurs avec plus de 50 producteurs, dont au moins la moitié propose du bio. Ça va du vin au pain, aux œufs, au fromage, à la viande, aux tisanes, aux huiles. Donc même plus besoin finalement d'aller au supermarché, même plus besoin à la limite de la voiture puisqu'on peut y aller en vélo. Et je les remercie de ce courage parce qu'on est dans un système d'offre et demande. Et si effectivement tout le monde s'y met, c'est-à-dire si nous allons les encourager et si eux ont le courage effectivement de se lancer en bio, je crois qu'il y a de l'espoir.
Oui, et puis ça percole et ça remonte après quand même en direction des politiques et des décideurs, ce type de
absolument. De et alors j'ai un autre exemple, puisque je reviens effectivement de La Haye où on a mené ce tribunal.
La semaine dernière, donc c'était le tribunal, c'était un procès simulé mais tout à fait symbolique pour faire donc avancer cette notion d'écocide qui vous est extrêmement chère. Donc c'était le tribunal international Monsanto, donc mais avec des vrais juges, hein, donc qui étaient là. Quoi.
Oui, alors c'était un tribunal d'opinion où on a demandé effectivement à 5 juges internationaux, dont la présidente est elle-même vice-présidente de la Cour européenne des droits de l'homme, de différents continents, 5 continents, de pouvoir effectivement statuer sur des cas de violation des droits de l'homme par Monsanto, de pouvoir pointer du doigt les manquements, c'est-à-dire finalement, qu'est-ce qui manque aujourd'hui dans le droit pour pouvoir se positionner en tant que citoyen face à des géants comme Monsanto, et puis de voir aussi la validité de cette idée de reconnaissance du crime d'écocide. Donc il ne s'agissait pas du tout de poser un verdict, une condamnation. Il s'agissait simplement de leur demander un avis qui nous rendront le 10 décembre. Et il y avait une assemblée des peuples en parallèle avec des représentants de sociétés civiles de plein de pays, toute l'Amérique du Sud était représentée, l'Afrique. Et je discutais justement avec un agro-agriculteur, un agro-pastoral et agro-écologie, une association en tout cas, qui me disait, mais en fait au Burkina, ce sont nous, la société civile, qui avons viré Blaise Compaoré après 20 ans, 25 ans de dictature.
Ils ont viré Monsanto en
même
temps.
Et ils viennent de virer Monsanto.
Enfin, cela dit, Monsanto, ils reviennent aussi.
Ils essayent de revenir par la petite porte.
Oui, et puis ils reviennent par le maïs, même s'ils ont dégagé du coton.
Mais c'est très intéressant de voir.
C'est quand même un cheval de Troie pour imposer des OGM dans toute l'Afrique. Il y en a en Afrique du Sud, mais après, c'est ça leur
stratégie. Oui, sauf que depuis 2003, où Monsanto est rentré au Burkina, toutes les récoltes ont été catastrophiques. La fibre de très mauvaise qualité, les grains pourrissent sur place et les fermiers effectivement se sont retrouvés extrêmement endettés. Et donc il y a eu un soulèvement massif qui montre que si on n'a pas effectivement le levier du droit, on peut au moins avoir le levier de la pression citoyenne. Et je crois que c'est effectivement très encourageant.
Take a side, the lonesome organ grinder cries. The silver saxophones say, I can't refuse you. The cracked bells and washed out horns blow into my face with scorn. But it's not that way, I wasn't born to lose you. I want you. I want you. I want you so bad. Honey, I want you. The drunken politician leaps upon the street where mothers weep, and saviors who are fast asleep, they wait for you. And I wait for them to interrupt me drinking from my broken cup and ask me to open up the gate for you. I want you. I want you. Yes, I want you so bad.
living without it. But all their daughters putting it down, cause I don't think about it. Well, I return to the Queen of Spades and talk with my chambermaid. She knows that I'm not afraid to look at her. She is good to me, and there's nothing she doesn't see. She knows where I'd like to be, but it doesn't matter. I want you, yes, I want you so bad. Honey, I want you. Now your dancing child with his Chinese suit, he spoke to me, I took his flute. No, I wasn't that cute to him, was I? But I did it because he lied, because he took you for a ride. Because time is on his side, and because I want you, I want you, yes, I want you so bad. Honey, I want you.
Ah bah on le laisse souffler dans son harmonica jusqu'au bout quand même. Un petit Dylan des familles sur France Inter. On aime bien, on aime bien donner la chance aux jeunes. Et donc c'est pour ça que Dylan, ça nous fait du bien. Les Beatles aussi, les Rolling Stones, tout ça. Voilà, merci à Muriel Pérez donc d'avoir choisi ce disque. Toujours avec vous donc Valérie Cabanès. Pour poursuivre sur le Burkina Faso, c'est très intéressant parce qu'actuellement la population est en train d'interpeller son président. Alors pourquoi et ça peut aller jusqu'où?
Alors effectivement, les leaders de la société civile ont décidé de réunir les chefs coutumiers, les chefs religieux, les grandes ONG du pays pour demander une audience au président, pour lui demander d'être le premier pays au monde à porter auprès de l'Assemblée des États parties à la Cour pénale internationale le projet de reconnaissance du crime d'écocide. Et ça me fait chaud au cœur, c'est un pays dans lequel j'ai vécu 2 ans, et quand je vois effectivement comment ils se mobilisent pour préserver leur souveraineté alimentaire et leur souveraineté tout court, je me dis pourvu que ça marche.
Alors aujourd'hui quand même, pour l'économie de marché, la pollution c'est une conséquence involontaire de l'action, on va dire, rationnelle des individus, donc ce qu'on appelle gentiment une externalité dont le coût ne veut pas être assumé par les entreprises parce qu'ils vous disent, bah oui mais ça nous échappe, c'est diffus, ça affecte donc les communs mais ça appartient à personne, l'air, l'eau, voilà. Donc les entreprises ne voient pas l'intérêt de les réduire, sauf lorsqu'il y a un problème d'image. Quand elles voient qu'il y a un problème d'image, elles commencent à bouger, ou bien peut-être aussi parce que de temps en temps il y a quand même des enfants et des petits-enfants qui leur disent là, ça suffit. Bon. Il n'y a pas de taxe environnementale dans le calcul économique. Donc, qu'est-ce qui peut arriver à faire basculer cela? Parce que là, est-ce que le droit international, qui n'est pas outillé en fait pour faire face à ça, peut évoluer?
Alors, on ne va pas quelque part leur reprocher cela.
Non, ils font leur boulot.
L'objet du secteur privé, c'est de faire du profit. Ils ne sont pas là pour défendre l'intérêt général. Donc, logiquement, on se tourne vers les politiques et on se rend compte que la collision des intérêts entre le politique et l'économique est devenue monumentale, puisque le secteur privé peut financer les campagnes politiques, puisque les États sont actionnaires de certaines grandes entreprises et donc mettent finalement nos billes, l'argent de nos impôts dans des projets industriels néfastes. Donc aujourd'hui, ce que nous proposons, c'est véritablement de reconnaître qu'il y a des valeurs comme celle de l'écosystème Terre qui doivent être au-dessus des souverainetés nationales, au-dessus des intérêts souverains de chaque État, qui puissent donc effectivement s'imposer à tous et donc s'imposer aussi au secteur privé. Il faut pouvoir effectivement dire au secteur privé, voilà les limites dans lesquelles vous pouvez fonctionner. Et ces limites planétaires dont nous parlions tout à l'heure sont effectivement un outil scientifique très intéressant pour pouvoir réguler et contraindre les investisseurs et les entreprises à changer de stratégie et à amorcer une véritable transition écologique et énergétique.
Alors là, vous avez employé absolument le mot, c'est-à-dire contraindre. Quand on voit ce qui se passe sur le CETA, merci à nos amis wallons, la France, elle, est absolument à pieds joints pour, effectivement, ce CETA, en ayant donc dégagé, on va dire, le TAFTA, d'accord. Enfin, voilà, c'est eux, ils ont posé les problèmes en disant, on est dans un magazine d'environnement, il n'y a rien sur l'environnement, il n'y a rien sur le principe de précaution. Voilà, donc là, ils sont en train de résister. Donc, comment fait-on? Parce qu'on voit bien que quand même la force actuelle, c'est au contraire de dégager tout ce qui est environnemental et écologique.
Oui, c'est pour ça que j'ai peu d'espoir et dans ces négociations, et dans celles même qui se mènent au sein même des Nations Unies, même s'il y a des forces en interne qui tentent, par exemple, avec un groupe que j'ai rejoint qui s'appelle Harmony with Nature, d'influencer toutes les négociations à venir en prenant en considération justement cette notion d'interdépendance entre les êtres vivants. Notre stratégie a été de viser la Cour pénale internationale parce que celle-ci a un statut...
Est au-dessus, comment on veut
dire ? Oui, voilà. Celle-ci est un organe indépendant des Nations Unies. Elle est constituée de 124 États et les grands États puissants qui font capoter toutes les négociations internationales, de celui sur le climat jusque peut-être aujourd'hui celui de demain sur le traité contraignant sur les multinationales, je pense aux États-Unis bien évidemment, ne sont pas État partie à la CPI. Donc ils ne sont pas à la table des négociations, ils ne peuvent pas ni poser de droit de veto, ni effectivement s'interposer au niveau des votes. Et quand on regarde stratégiquement qui est aujourd'hui dans la CPI, ce sont majoritairement des États vulnérables au changement climatique, les insulaires du Pacifique, majoritairement des États africains qui sont aujourd'hui victimes de la spoliation des multinationales et des États d'Amérique du Sud. Et ce sont d'ailleurs les mêmes qui négocient la semaine prochaine un traité contraignant sur les multinationales au Conseil des droits de l'homme. Donc il y a une double stratégie à mon avis à jouer et je vais effectivement à Genève la semaine prochaine pour leur dire n'oubliez pas de compléter effectivement le droit public par le droit pénal, parce que c'est en responsabilisant les décideurs, c'est en nommant des personnes physiques responsables de leurs actes que nous pourrons obtenir effectivement des décisions plus raisonnables.
Et dans cette nature qui est globalisée, avec donc des menaces qui sont diluées, qui diluent en fait les responsabilités aujourd'hui étatiques, si on prend, alors on peut prendre l'exemple du barrage de Belo Monte. Là, on voit bien que le droit n'est pas outillé, donc ça se passe au Brésil. Si on prend aussi les ravages des élevages OGM, ça c'est très intéressant.
Oui, alors dans les deux cas, le Brésil est effectivement emblématique. Alors d'une part, le barrage de Belo Monte, c'est un barrage qui a déjà été, un projet qui avait été annulé déjà deux fois, et Dilma Rousseff a réussi à le remettre sur la table. Il y a eu 25 procès au niveau régional pour effectivement dénoncer ce barrage qui ont été à chaque fois gagnés. Dilma a réussi à envoyer de Brasilia des avocats et des juges pour casser les jugements. La Cour suprême du Brésil a considéré ce projet interdit. Elle n'a pas été écoutée. La Cour interaméricaine des droits de l'homme a demandé à Dilma Rousseff de venir s'expliquer à Washington. Elle n'est pas venue. L'ONU a pondu deux rapports pour dire que ce projet était en opposition totale avec toutes les conventions internationales, dont la convention contraignante de l'OIT sur les droits des peuples autochtones. Et là, on voit que ce projet aujourd'hui est quasiment fini. Donc il manque, c'est l'évidence même qu'il manque une juridiction supranationale qui est là pour l'intérêt général commun sur Terre et qui puisse faire effectivement respecter le droit des écosystèmes, le droit des populations autochtones. Et puis, de la même manière, on n'est pas conscient, nous, de nos complicités insidieuses sur ces systèmes-là.
C'est-à-dire que l'État est aussi actionnaire de certains groupes.
L'État est actionnaire, exactement. Par exemple, l'État est actionnaire des groupes qui ont donné les turbines pour construire le barrage de Belo Monte. Engie a été actionnaire de 50,1% du barrage des Tapajos, aussi en Amazonie brésilienne, donc une entreprise française. Alstom, entreprise française. Et puis, nous consommons 80% par exemple du bœuf que nous consommons en France est issu de la forêt brésilienne ou de la forêt d'Argentine.
Ah, d'accord.
De la même manière que notre bétail est nourri avec des tourteaux de soja OGM qui sont cultivés en forêt amazonienne. C'est comme ça qu'un tiers de la forêt a disparu. Sachant que l'Amazonie est un des poumons principaux de la planète, qu'elle est une pompe à carbone, qu'elle est une régulatrice du climat. C'est une véritable catastrophe écologique qui est en cours et que, effectivement, dans nos choix de consommation, nous encourageons.
J'ai envie de poser cette question-là qui est peut-être plus personnelle, mais vous, Valérie Cabanès, pourquoi vous faites ça? Quel est votre moteur, on va dire, personnel? Pourquoi vous êtes engagée dans cette aventure, au-delà d'être juriste, d'avoir fait votre droit, j'imagine, quand même? Mais pourquoi? Enfin, parce que là, on vous sent quand même très, très forte, très déterminée avec cela. Et vous connaissez évidemment les forces en présence qui sont donc face à vous. C'est un rouleau compresseur absolument incroyable. Et pourtant, on voit bien que ça bouge. Les gens ne veulent pas forcément... Il y a un décalage terrible entre ce que veulent beaucoup de personnes qui nous écoutent. Alors, elles sont plus convaincues que d'autres, bien sûr, mais aussi les décideurs.
Alors je pense que c'est lié à une expérience de vie. J'ai énormément voyagé quand j'étais enfant dans des pays extrêmement pauvres où j'ai vécu comme ces populations-là. J'ai ensuite passé 20 ans sur le terrain à mener des projets effectivement auprès de populations vulnérables. J'ai vu de mes yeux la destruction environnementale qui menace les conditions d'existence des populations partout. J'aime l'homme et j'aime la nature. Et à un moment donné, je me suis réfugiée en forêt boréale avec des communautés amérindiennes, les Inuits du Québec. Et j'ai vraiment pu, à un moment donné, me connecter profondément à cette nature sauvage. Je vis encore aujourd'hui dans la forêt et je suis issue de l'océan, puisque je suis issue d'un village de pêche breton.
Breton, oui.
Et véritablement, je ne sais pas, je sens dans mes tripes à quel point nous appartenons à la nature et à quel point notre attitude est suicidaire. Et ça me fait mal, et j'ai des enfants.
Et vous n'êtes pas du tout dans le côté « il faut protéger la nature de l'humain ». Ça, vous dites que ce serait absolument une erreur.
Non,
vous avez un certain nombre d'écolos qui sont comme ça. Hein,
donc, absolument. Ouais. Non, je crois qu'il faut au contraire qu'en se reconnectant à la nature, on retrouve en nous le fait que nous sommes un maillon du vivant, qu'on retrouve en nous le fait que nous sommes la nature, que la nature, c'est effectivement tout ce qui est vivant sur Terre. Nous sommes nécessaires à son maintien de la même manière que n'importe quel être vivant est nécessaire au maintien de l'homme.
Voilà, Jean-Marie Pelt vous écoute là sûrement et donc il est ravi, vous voyez, c'est aussi ça depuis 1977 qui mouline, donc il nous racontait ça évidemment un peu autrement, mais c'était quand même ça. Et alors là je vois aussi quelque chose qui peut nous faire du bien, c'est un ouvrage qui vient de sortir chez Actes Sud qui s'appelle « Et nous vivrons des jours heureux ». Alors là vous avez une centaine d'auteurs, vous avez 120 actions pour résister et pour créer. L'indignation façon SL, oui, c'était une période, c'était nécessaire, mais l'action, c'est quand même aujourd'hui absolument indispensable. Et alors, là, l'idée, c'était quoi? Je l'ai un peu résumé, mais enfin, qu'est-ce que c'était donc, ça?
Alors, il sort effectivement le 2 novembre. Et, il est dans l'état d'esprit du livre que j'ai sorti en octobre, qui est de dire, bon, ok, on est face effectivement à une situation qui devient extrêmement grave. C'est en référence d'ailleurs avec, après la guerre, le mouvement des résistants qui a proposé,
CNR,
oui, le CNR, le Conseil National de la Résistance, qui a proposé finalement une nouvelle utopie, une nouvelle société. Finalement, nous ne sommes pas en guerre, mais nous sommes quand même en guerre. Nous sommes en guerre économique, nous sommes en guerre avec la nature, nous sommes en guerre avec nous-mêmes, avec les migrants. Et de dire, bon, est-ce qu'il ne faudrait pas repenser une utopie, reproposer un projet, en sortant des clivages politiques, en amenant chacun nos compétences pour pouvoir amener, finalement, de façon très libre, nos rêves et nos utopies. Donc nous sommes réunis à 100 auteurs, chacun à 2, à 3, a écrit des piliers de loi d'une France idéale, à tous les niveaux, sur le plan social, sur le plan écologique, sur le plan international. Et ce projet est très très beau, parce qu'en plus il s'est fait avec une très belle éthique, dans un principe de sociocratie. Et il va permettre effectivement de poser des jalons et de faire 9 propositions essentielles, dont d'ailleurs la reconnaissance des droits de l'écosystème Terre, qui vont être présentées à chaque candidat à l'élection présidentielle, et on va leur demander leur avis. Et on demande aux citoyens d'aller sur le site des Jours Heureux et de compléter, d'enrichir les propositions.
C'est www les Jours Heureux, qu'est-ce que c'est?
Oui,
c'est ça,
absolument.
Voilà. Donc, grand merci à vous, parce que derrière tout ça, soit vous avez des personnes qui sont soit dans le déni, soit dans la sidération. Dans les deux cas, ça ne marche pas. Hein, donc,
non,
c'est
de
lutter absolument contre ça.
Il faut se mettre en mouvement et avec joie.
Merci beaucoup, Valérie Cabanès. On pourra vous réécouter d'ailleurs entre 5h et 6h du matin avec la rediffusion donc, de Ce haut de mon amour, ou bien sûr en podcast. Un nouveau droit pour la Terre, pour en finir avec l'écocide, c'est au seuil. Et nous vivrons des jours heureux. Donc ça, c'est aux éditions Actes Sud qui va sortir le 2 novembre. Merci à Anne-Laure Cochet, à Hélène Langlois aujourd'hui à la technique. Nous avons Camille Blanès, bien sûr, qui était notre assistante, et Xavier Petsuja qui réalisait l'émission. Anne Gouzon qui nourrit les sites, avec aussi le Twitter Initiative Terre. Le nôtre, c'est chez Sou, hein, tout simplement. Et puis la semaine prochaine, encore d'autres sujets. Curieux de nature, ce sera demain matin avec Alain Bougrain-Dubourg chez Patricia Martin à 7h55.